Le satyre est une divinité de la mythologie grecque. Il apparaît sous forme humaine avec des cornes et des pattes de bouc. Dans les gravures du Moyen-Âge, ce dieu est souvent représenté jouant de la flûte et aussi en compagnie de nymphes, ces déesses qui hantent les campagnes et les forêts. Je n'en ai jamais rencontré. Par contre, j'ai déjà vu des boucs. Or, en hébreu, c'est le même mot qui désigne l'un et l'autre. Dans une prophétie contre Babylone, on trouve ce terme qui veut dire « velu, hérissé », mais qui est traduit par « bouc ». Je reprends la fin du chapitre 13 du livre d'Ésaïe. « Car Babylone ne sera plus jamais habitée et plus jamais peuplée dans toutes les générations. Et même les nomades n'y dresseront jamais leurs tentes et nul berger ne s'y reposera. » Les chats sauvages chercheront abri dans ces ruines, et ces maisons seront hantées par les hiboux, et les autruches y établiront leur demeure. Les boucs viendront y prendre leur ébat, les chats sauvages s'appelleront dans ces châteaux, et le chacal viendra hurler dans ces palais. Son heure approche, et ses jours ne seront pas prolongés. Ésaïe 13, les versets 20 à 22. Il est probable que ces boucs ou satyres sont en réalité des mauvais esprits qui hantent les ruines de Babylone. Ce qui n'est guère surprenant, puisqu'en son temps, cette ville est le plus grand centre d'idolâtrie du monde antique. Cette idée de démons qui parcourent des endroits désolés peut faire sourire, mais c'est bien à tort, car Jésus lui-même a dit, « Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans des lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. » Matthieu 12, verset 43. Beaucoup d'Irakiens qui habitent en proximité des ruines de l'ancienne Babylone, situées à une soixantaine de kilomètres au sud de Bagdad, croient dur comme fer que des démons habitent cet endroit. Avant la Première Guerre mondiale, des archéologues allemands sont venus y faire des fouilles. Mais les Arabes, qui travaillent pour eux, refusent absolument de passer la nuit sur le site parce qu'ils ont peur des mauvais esprits. Avant l'invasion de l'Irak par Bush, premier, puis Bush, deux, des adorateurs du diable venaient dans ces lieux lugubres pour y pratiquer la sorcellerie. Dans le passage cité, Ésaïe nomme plusieurs espèces d'animaux. Or, aujourd'hui, on trouve effectivement dans ces ruines des hiboux, des chacals et des chiens sauvages, des animaux rituellement impurs. Babylone n'est qu'aux ruines, et pourtant, de tous les empires qui se sont accaparés le Moyen-Orient, l'Égypte, la Syrie, la Perse, la Grèce et Rome, et même la Grande-Bretagne, aucune n'a brillé comme Babylone. En l'an 600 avant Jésus-Christ, Nabucodonosor y construit, pour sa femme, des jardins suspendus qui étaient considérés comme l'une des sept merveilles du monde antique. Mais, comme je l'ai déjà dit, cette cité magnifique fut détruite par les Assyriens en 689 avant Jésus-Christ. Ensuite, par Darius Ier en 518, puis son fils Xerxès rasa tous les temples en 482. Enfin, Alexandre le Grand, 356-323, s'empare de ce qui reste en 330 et veut reconstruire Babylone pour en faire sa capitale. Mais il meurt avant de réaliser son projet. C'est l'un de ses généraux, c'est Lucius Nicator, qui en prend possession à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais il pille ses matériaux pour construire sa capitale, Séleucie, à 60 kilomètres de là, sur le fleuve Tigre. Au temps de Jésus-Christ, l'historien grec Strabon écrit que la grande ville est un grand désert. Aujourd'hui, il existe quelques villages proches de ces ruines colossales. Le principal est la bourgade de Hillal, située à peu près au centre de l'ancienne Babylone. À la fin des temps, il sera reconstruit puis totalement rasé à nouveau lorsque Jésus-Christ reviendra sur terre pour établir son royaume de 1000 ans. Alors, elle sera vraiment comme Sodome et Gomorre, ville symbolisant une destruction complète. Jérusalem et Rome furent détruites et reconstruites, mais Babylone attend encore son or. À la fin des temps, elle redeviendra un grand centre commercial, politique et religieux, et l'Antichrist y fera sa résidence jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau détruite, mais cette fois-ci pour toujours. Nous arrivons maintenant au chapitre 14 qui commence par le retour d'Israël dans sa patrie, suivi d'un chant de triomphe parce que la ruine de Babylone est consommée. Mais en plein milieu du cantique, la prophétie glisse. Le roi assyrien prend les traits d'un personnage bien plus sinistre que lui et nous renseigne sur l'origine du mal. Comparez Ézéchiel 28, 12 à 19. Je commence à lire le chapitre 14. Mais l'Éternel aura compassion de Jacob et, de nouveau, il fixera son choix sur Israël. Il rétablira ses enfants dans leur propre pays, et des étrangers se joindront au peuple de Jacob. Ils s'uniront à lui. Des peuples viendront les chercher et les reconduiront chez eux. Le peuple d'Israël prendra ses gens dans le pays que l'Éternel pour serviteurs et pour servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les auront capturés, et ils domineront ceux qui les auront opprimés. Ésaïe 14, les versets 1 et 2. L'une des raisons pour lesquelles Dieu juge Babylone au moyen des Perses qui s'emparent de la ville en 539 avant Jésus-Christ est pour libérer son peuple qui y est captif. Ésaïe 11, verset 11. Le même scénario se reproduira à la fin des temps. En effet, pendant la grande tribulation, l'Antichrist poursuivra inlassablement les Juifs à partir de Babylone, sa capitale. Mais alors qu'Israël est sur le point d'être écrasé, Jésus-Christ apparaît soudainement et anéantit toutes les armées qui attaquent son peuple. Puis, il instaure son règne de 1000 ans. Dans cette prophétie, l'Éternel confirme son choix de prendre Israël pour son peuple et de le rétablir dans son pays. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi Abraham, Isaac, Jacob et leurs descendants pour peuple, puis la tribu de Juda et David et Salomon comme roi. Le peuple juif est toujours au centre du plan divin. Mais depuis que Nabucodonosor a détruit le temple et la ville de Jérusalem, de Chroniques 36, les versets 15 à 21, nous vivons une époque qui est le temps des nations, Luc 21, 24, et qui durera jusqu'à ce que Jérusalem et Israël retrouvent leur place prépondérante, ce qui aura lieu à la fin des temps. Même quand la Palestine était sous mandat britannique, à partir de 1917, les Anglais ne laissaient pas les Juifs retourner dans leur pays. Mais pendant le règne du Christ, la nation d'Israël connaîtra un renversement de situation. Les Juifs ne seront plus menacés partout dans le monde comme c'est le cas aujourd'hui. Et Israël sera à la tête des nations qui toutes seront à son service. Psaume 2, verset 8, 72, les versets 8 à 11. Les païens qui se rejoindront volontairement au peuple de Dieu pour rendre un culte à l'Éternel obtiendront le même statut et auront part aux mêmes bénédictions que les Israélites. Ils feront partie de cette foule innombrable, prophétisée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 9, 7, verset 9, venus des quatre coins de la terre pour adorer l'agneau immolé. Je continue le texte. Au jour où l'Éternel t'aura accordé du repos après ta peine et ton tourment, et après le dur esclavage auquel on t'aura servi. Ésaïe 14, verset 3. Aujourd'hui, les Israélites ne connaissent pas la paix. À cause de leurs voisins qui les menacent et les attaquent, toutes les constructions comportent des abris anti-aériens et ils sont érigés toutes sortes de barrières sur leurs frontières pour se protéger des commandos suicides. Je continue. Tu chanteras ce chant pour te moquer du roi de Babylone. Oui, tu diras, comment est-ce possible? L'oppresseur n'est plus là. Fini la tyrannie. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des despotes. Celui qui, dans sa rage, frappait les peuples par des coups sans relâche et qui, dans sa colère, opprimait les nations. Maintenant, à son tour, il est poursuivi sans trêve. Toute la terre est en repos, elle est tranquille, et des cris d'allégresse retentissent partout. Ésaïe 14, les versets 4 à 7. Ce cantique est l'une des plus belles poésies de l'Ancien Testament. Il appartient au genre littéraire des chants funèbres, comparés de Samuel 1, 19, 25 et 27, Lamentation 1, 1. C'est un cantique de triomphe, Ésaïe 14, 4 à 21, qui exprime le soulagement inexprimable et universel suite à la chute et à l'humiliation de l'oppresseur. Ésaïe décrit une scène unique en son genre. L'arrivée du monarque babylonien dans le séjour des morts, où il est accueilli avec une révérence railleuse par tous les rois qui l'ont précédé. Cette scène des enfers dramatise le profond abaissement du monarque jadis tout-puissant. Mais qui est-il? Ce n'est pas l'incapable Nabonide, le dernier roi babylonien appelé Belshazzar. Comme c'est souvent le cas dans les prophéties, il représente plusieurs personnages. Il s'agit d'abord de Sennachérib, qui était à la fois roi d'Assyrie et de Babylone et qui est mort assassiné. En effet, plus loin dans le livre, alors qu'il a envahi Juda et menace Jérusalem en 701 avant Jésus-Christ, dans 2 Rois 18-19, le prophète prononce sur lui une malédiction qui a des similarités avec les paroles de ce cantique. En second lieu, ce sinistre personnage représente la dynastie babylonienne. Troisièmement, tous ces rois sont aussi ces figures représentatives de l'Antichrist lorsqu'il dominera sur la Babylone reconstruite. Une fois ce dernier tyran supprimé, la terre sera en paix, ce qui est une référence au règne du Christ. Le quatrième personnage qui se cache derrière le roi de Babylone est Satan. C'est d'abord Tertullien, un père de l'Église, puis 4 siècles plus tard, le pape Saint Grégoire Ier, qui furent les premiers à l'identifier dans cette prophétie. Je continue le texte. Les cyprès même sont heureux de sa chute, et les cèdres du Liban disent « Depuis que tu t'es effondré, le bûcheron ne vient plus nous abattre ». Ésaïe 14, verset 8. Les rois d'Assyrie et de Babylone abattaient cyprès et cèdres en grande quantité. Ésaïe 37, verset 24, pour construire leur palais, divers monuments dédiés à leur gloire, des navires ou des machines de guerre. Alexandre le Grand s'est conduit de la même façon en se constituant une flotte en bois de cyprès. Dans cette prophétie, la destruction des forêts est considérée comme une marque d'orgueil. De nos jours, c'est l'appât du gain, par cupidité, que les multinationales rasent d'immenses forêts tropicales pour vendre le bois et brûler tout ce qui se trouve sur le chemin de leurs gros engins. Ils se moquent bien des conséquences écologiques, de la disparition des espèces ou de l'effet de serre. Il n'y a que le fric qui compte. Je continue. Le monde du séjour des morts en bas est en émoi à ton sujet pour t'accueillir à ta venue. Pour toi, on réveille les ombres et tous les princes de la terre. On a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Eux tous, ils s'adressent à toi en te disant, « Toi aussi, tu es maintenant sans force, comme nous, te voilà donc semblable à nous. Ton orgueil est précipité dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes. Les vers sont maintenant ta couche, la vermine ta couverture. » Ésaïe 14, les versets 9 à 11. Le séjour des morts est ébranlé jusque dans ses profondeurs par l'arrivée d'un hôte aussi important. L'émotion est à son comble dans ce lieu où, habituellement, règnent les ténèbres. Le silence opaque est l'inactivité. Job 3, 13, 17, psaume 6, 6 et 88, les versets 12 et 13. Celui qui faisait trembler la terre est maintenant réduit au rang des ombres impuissantes. Le mot traduit par les princes de la terre, est littéralement les boucs, parce que ce sont les boucs qui marchent à la tête des troupeaux de chèvres. Zacharie 10, verset 3. Dans ce contexte, le mot rendu par « sans force » signifie aussi « ombres » ou « fantômes ». Toutes ces grandes ombres se lèvent de leur siège pour accueillir le roi babylonien avec tous les honneurs dus à son rang de monarque suprême. Le prophète décrit le sort pitoyable de ce personnage qui, de son vivant, s'est fait diviniser. Il connaît désormais le même sort que le plus humble des hommes, car les distinctions terrestres n'ont plus cours dans le royaume des morts. Parmi ses hôtes des enfers se trouvent bien évidemment les victimes du monarque babylonien, ce qui rend l'ironie de leur discours encore plus mordante. Pendant que cette scène se déroule dans le séjour des morts, sur terre, les chairs du monarque sont bouffées par les vers. La vermine a remplacé les couvertures et les tapis de luxe qui constituaient sa couche. La pompe et l'orgueil humain ne sont plus possibles à un cadavre en décomposition. Je continue. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi qui terrassais les nations, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Ésaïe 14, verset 12. Le roi assyrien et babylonien, Sénéchérib, avait conquis la Phénicie, la Philistie, l'Égypte, Moab, le pays d'Édom, la Cilicie, une grande partie de Juda et le nord de l'Arabie. Mais la fin de ce despote est brutale. Il s'est éteint aussi vite que la lueur de Vénus disparaît au moment où le soleil se lève. Le même scénario se reproduira pour l'Antichrist quand il sera jugé à la fin de la grande tribulation. Mais comme je l'ai déjà dit, cette prophétie d'Ésaïe s'applique aussi et surtout à un individu bien plus sinistre que tous les despotes terrestres. Derrière eux, le projecteur prophétique éclaire les faits et gestes et lubrie l'arrogance démesurée de Satan. Dans l'ancienne version latine, le premier de ses titres, Astre brillant, est Lucifer. À l'époque d'Ésaïe, les païens croient que les étoiles représentent des dieux qui se disputent le pouvoir. Comme je l'ai dit, la tradition chrétienne a vu dans ce passage la chute de Lucifer. Pourtant, à l'origine, c'est la plus glorieuse de toutes les créatures que l'Éternel a créées. Ézéchiel 28, les versets 2, 19. Mais comme Judas, il retourne sa veste et se dresse contre Dieu. Cependant, il ne veut pas que ce méfait se sache, car il veut garder l'anonymat et souhaite que vous le preniez pour un mythe qui fait partie du folklore, comme le Père Noël. Mais il n'est que trop réel, et Jésus a parlé de lui plusieurs reprises comme le tentateur et un personnage redoutable qu'il faut craindre. Matthieu 4, Luc 12, 5, 22, 31. Et l'apôtre Paul écrit qu'on doit se méfier de lui, car il se déguise en ange de lumière, de Corinthiens 11, verset 14, afin de nous tromper. Pour l'instant, et pour des raisons que Dieu ne nous a pas entièrement révélées, Satan a encore sa place dans les lieux célestes, mais à la fin des temps, il en sera chassé. En effet, dans le livre de l'Apocalypse, on lit: alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon, et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable, et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, les versets 7 à 9. Je continue le texte. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, les versets 13 et 14. Selon la mythologie babylonienne, les dieux siègent chaque année à l'extrême nord où se trouve le sommet du monde. Cette réunion extraordinaire a pour but de fixer le dessein des hommes. Dans la mythologie cananéenne, ce rassemblement a lieu sur le mont Cassius, en Syrie. Pour les hindous, c'est Meru. Pour les perses, Alborj, et pour les grecs, l'Olympe. À cause de sa puissance, Sennachérib et ses successeurs se considéraient l'égal du plus grand des dieux. Une prétention, somme toute relativement banale, puisqu'on la trouve chez tous les païens. Les rois d'Assyrie, dans leurs inscriptions, et ceux de Perse, sur leur monnaie, se disent « fils des dieux ». Et en Égypte, Alexandre le Grand s'est fait appeler « fils de Jupiter Amon ». Et les empereurs romains ordonnaient à leurs sujets de leur rendre un culte, comparé Daniel 6, 7, Ézéchiel 28, 2 et Acte 12, les versets 21 à 23. Les cinq verbes consécutifs de ce passage soulignent une démarche réfléchie et un plan d'action qui ont lieu dans les sphères célestes, ce qui est impossible à un monarque terrestre ou même à l'Antichrist. En fait, ces cinq volontés traduisent l'orgueil invraisemblable de Satan qui a carrément monté un coup d'État pour tenter de prendre le pouvoir à son Créateur. Un comportement insensé qui défie l'imagination. On peut se poser bien des questions sur cet événement, mais les Écritures ne nous donnent que peu de réponses. Par contre, tous les êtres rationnels de l'univers, que ce soit les anges ou les hommes, sont créés avec une volonté propre, un libre arbitre dont ils peuvent faire bon ou mauvais usage. Il s'ensuit qu'ils ont la possibilité de se révolter contre Dieu en lui désobéissant, ce qui est l'essence du péché. Plus loin, Ésaïe écrit « Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. » Ésaïe 53, verset 6. C'est bien là notre problème. Les gens disent, je vais agir comme je l'entends et faire ce que je veux indépendamment de mon Créateur. Tout ce qui est contraire au caractère de Dieu est péché. Dans la prière appelée le Notre Père, Jésus dit à son Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre, comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. La faute de Satan est l'orgueil. Il n'a ni volé, ni tué, mais dans son arrogance, il s'est opposé à son Créateur. En fait, dans son hubris, il voulait être comme lui. Pire encore, il voulait être Dieu. Il n'existe que deux façons de vivre, la voie de Dieu ou façon homme déchu. Or, cet univers appartient à son Créateur, et nous profitons de son soleil, ainsi que de toutes les ressources de la terre, et c'est gratuit. Dieu n'a encore jamais envoyé une facture à quelqu'un, ce qui est une bonne raison de lui obéir. Dans son évangile, Jean rapporte que Jésus a dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, sinon par moi. » Jean 14, verset 6. Quiconque veut faire la volonté de Dieu doit obligatoirement passer par Jésus, qui a aussi dit « Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jean 5, verset 23, 6, verset 29.